Hors champ, le podcast cinéma de l'EJT.
Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui les femmes sont à l'honneur, je vous embarque avec Océane, Apolline, Audrey et Margot, nos chroniqueuses hors champ. Ce sera donc un podcast 100% féminin et sans plus attendre, on commence avec 4 anecdotes sur les femmes dans la culture. Et si je vous dis l'effet Matilda, est-ce que vous connaissez ? Océane nous parle de ce phénomène qui est apparu au début des années 90.
Oui, en fait, Déborah, ce concept, il est théorisé par l'historienne des sciences américaines Margaret Rositer en 1993. Elle approfondit un constat, les femmes chercheuses sont évincées des remises de prix. Et plusieurs femmes en ont été victimes. Il y a eu la physicienne Liz Meitner, la biologiste Rosalind Franklin ou encore l'astronome Jocelyn Bell, mais pas seulement. Et ces scientifiques n'ont accédé à la reconnaissance que des années après leur découverte. Pendant ce temps-là, les hommes en profiter tranquillement.
Océane nous fait un petit point histoire maintenant.
Margaret Rositer rend hommage à la militante féministe Matilda Jocelyn Gage. C'est la première à remarquer cet effacement. Et dès la fin du 19e siècle, elle souligne qu'une minorité d'hommes ont tendance à s'accaparer la pensée intellectuelle de femmes. Aujourd'hui, bien que des progrès aient été réalisés dans ce domaine, l'effet Matilda persiste toujours.
Ok, donc la reconnaissance des femmes face aux hommes, ce n'est pas encore ça, mais on peut quand même souligner des avancées positives. Et oui, 3 personnalités féminines bien connues vont s'inviter dans nos porte-monnaies.
Et oui, on parle de Joséphine Baker, Marie Curie et de Simone Veil. Ces grandes figures de l'histoire seront les nouveaux visages des pièces de 10, 20 et 50 centimes d'euros. Elles seront mises en circulation dès l'été 2024 et le design des nouvelles pièces a été imaginé par le graveur général de la monnaie de Paris, Joaquin Jiménez. Alors place au profil de 3 des 7 femmes qui reposent au Panthéon avec leur nom gravé dans votre porte-monnaie.
Tu as une anecdote à nous raconter, il me semble.
Oui, en fait, les 3 figures regarderont dans la même direction, c'est-à-dire vers la gauche, à l'image de la semeuse, un symbole de la République figurant sur les pièces de monnaie françaises depuis 120 ans.
Bonne nouvelle dans le sport. Pour une fois, la parité des femmes aux Jeux Olympiques sera bien respectée.
En fait, depuis la première édition des Jeux Olympiques en 1896, qui était interdite aux femmes, on a fait un peu de chemin. Aujourd'hui, la charte olympique rend obligatoire la présence des femmes dans tous les sports, y compris la boxe. Et cette année, la parité est respectée entre les 10 500 athlètes des délégations.
Mais malgré ça, les inégalités persistent encore.
Oui, l'accès au sport de compétition en général reste difficile pour les femmes. Leurs primes aux JO sont largement inférieures à celles des hommes. Et du côté des responsabilités, c'est un peu pareil. Dans les 35 fédérations sportives françaises, seulement 2 femmes sont présidentes.
En Inde, Coca-Cola maltraite des milliers de femmes.
Oui, maintenant c'est un peu plus triste. Est-ce que vous savez ce qu'est l'hystérectomie? C'est lorsqu'une femme subit une chirurgie pour enlever son utérus. En Inde, c'est des milliers de femmes qui le pratiquent pour travailler sans interruption dans des champs de canne à sucre. L'Inde, c'est le premier producteur mondial de sucre et l'état du Maharashtra, dans l'ouest du pays, a été transformé en puissance productrice de sucre par Coca-Cola et PepsiCo. Sur un échantillon de 82 000 femmes étudiées par le gouvernement local, 1 sur 5, voire 1 sur 3, a subi une hystérectomie pour pouvoir travailler sans interruption. C'est le choix le plus favorable pour elles lorsqu'elles ont des règles douloureuses tous les mois, sans protection hygiénique propre non plus, dans des champs de canne à sucre sans eau ni toilette et avec un risque d'infection urinaire, elles n'ont pas d'autre choix.
Et leur travail se fonde sur la servitude par la dette.
Oui, en fait, ces travailleuses agricoles, elles migrent vers les champs du sud et de l'ouest et doivent rembourser 5$ par jour et par personne prêtés par des intermédiaires qui les emploient. Mari et femme gagnent 2 fois plus qu'un homme seul, si bien que les mariages forcés sont monnaie courante dans l'industrie sucrière. De plus, le travail est compliqué puisqu'elles arrachent les feuilles pointues de la canne, ce qui demande de la pratique pour ne pas se couper. Elles empilent la canne à sucre, portent les paquets sur leur tête jusqu'au camion, ce qui entraîne des douleurs constantes, notamment au niveau du cou. Et les inspecteurs de grands groupes comme Coca et PepsiCo ne garantissent pas les conditions de travail des saisonnières agricoles dans ces champs de canne à sucre.
Eh bien merci Océane, cette canette de Coca nous laisse un goût amer. Apolline va nous parler d'un autre concept présent dans la culture et qui est dénoncé par le mouvement féministe.
Oui, Déborah, je vais vous parler du male gaze, ou regard masculin en français pour les puristes.
Éclaire-nous un peu sur ce concept, Apolline.
Alors, le male gaze désigne l'idée que dans de nombreux aspects de la pop culture, le regard dominant serait celui d'un homme hétérosexuel. Ça peut s'appliquer à tout type de format, donc films, séries, mais aussi jeux vidéo, publicité, magazine, vous avez l'idée. Si jamais vous n'avez jamais entendu parler de ce concept, ça peut paraître un peu fumeux, mais vous allez voir qu'avec des exemples, ça va vous sauter aux yeux. Le male gaze, c'est le rapport non équitable des images entre les hommes et les femmes. Ce sont par exemple exemple. Les films James Bond, où les hommes sont en costume, donc classe, et les femmes sont dans des tenues suggestives qui les ramènent à leur corps. Le male gaze, c'est aussi une caméra qui présente une femme en commençant par ses pieds et qui remonte le long de son corps.
C'est donc forcément lié à la sexualisation.
Alors non, pas forcément, ça représente avant tout une idée de la femme qui est idéalisée dans l'imagination d'un homme. C'est la femme qui peint dans une large chemise, dans des positions suggestives, c'est celle qui est belle à toute heure de la journée, qui fait des batailles de polochon en culotte aux soirées pyjama. J'irais presque jusqu'à dire que le male gaze revient à catégoriser les femmes dans deux cases, la vierge ou la salope.
Et cette théorie ne date pas d'hier.
Non, c'est Laura Mulvey, une réalisatrice et critique cinématographique qui conceptualise le terme en 1975. Son travail est très important parce qu'il souligne l'influence de ces images sur nos vies. Un point de vue masculin et sexualisant qui domine, ça participe à glamouriser un comportement de supériorité de la part de l'homme, et donc les violences faites aux femmes. Et ne venez pas me dire que cette théorie date des années 70 et que ça n'existe plus aujourd'hui. L'idéal de l'homme dominant, violent, torturé, on le retrouve encore partout, et notamment dans des films pour ados d'ailleurs. Je pense à 50 nuances de Grey par exemple, où l'homme est violent et dominateur, mais ce n'est pas sa faute car il a un passé, et en plus c'est sexy. Pareil dans Le Loup de Wall Street par exemple, où la soif de pouvoir se traduit par le viol de sa femme, à plusieurs reprises, sans que ce soit adressé dans le film.
Mais il existe une technique pour se défaire du male gaze.
Oui, et bien vous pouvez faire le petit test de Bechdel-Wallace qui met en évidence l'omniprésence des hommes dans la culture. Pour faire ce test, il suffit de se demander si deux personnages féminins sont nommés dans l'œuvre, si elles ont une conversation ensemble et si leur conversation tourne autour d'autre chose que d'un homme.
Ça paraît plutôt simple.
Et oui, c'est aussi simple que ça, et pourtant en 2016, une étude sur 4000 films a montré que 40% d'entre eux ne passaient pas le test. Alors un test, ce n'est qu'un curseur, ça ne veut pas tout dire, mais avouez quand même que c'est assez évocateur.
Merci Apolline. Et maintenant, Audrey va nous présenter un livre qui raconte la vie d'une femme qui n'a pas froid aux yeux.
Et oui, Déborah, je veux vous parler des Sept maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. Publié en 2017, le livre connaît un franc succès. Au cœur de cette saga se trouve Evelyn Hugo, une icône hollywoodienne dans les années 50, aussi célèbre pour son talent que pour sa vie personnelle tumultueuse. À travers les yeux de Monique Grant, une jeune journaliste en quête de vérité, on découvre les secrets et les mystères qui ont jalonné la vie d'Evelyn.
La femme est donc au cœur de cette histoire.
Absolument. La protagoniste et les personnages principaux restent des femmes. Les hommes viennent et repartent tout au long du livre. En apparence, il s'agit d'histoires d'amour, mais en réalité, il est question d'homosexualité dans les années 50, de racisme, d'addiction ou même de violence conjugale. Le livre est divisé en 7 parties et chaque partie représente un mari et une époque différente de la vie d'Evelyn, mais aussi de l'histoire américaine, offrant ainsi au lecteur un tableau vivant et évolutif de la société et de la culture.
L'apparence et la sexualité de l'héroïne sont donc des thèmes omniprésents.
Oui, le roman tourne autour de la personnalité secrète d'Evelyn Hugo, star du glamour hollywoodien, icône sexy digne de Marilyn Monroe, adulée pour son physique, l'apparence est ce qui intéresse le monde du cinéma à l'époque. Instrumentalisant sa beauté et son sex appeal, elle grimpe les échelons. L'auteur en fait un portrait de femme forte, surtout dans une société hétéronormée, elle cache le plus possible sa bisexualité. Pourtant, au-delà du glamour et des paillettes, Les Sept maris d'Evelyn Hugo explorent également les thèmes plus profonds de la perte, du sacrifice et de la recherche de soi. À travers les triomphes et les tragédies de sa vie amoureuse, Evelyn lutte pour trouver son propre bonheur et sa propre identité, défiant les conventions sociales et les attentes imposée par une industrie impitoyable. En bref, cette histoire reflète de manière fictive la vie d'une femme latina bisexuelle aux États-Unis dans les années 50.
Merci Audrey de nous avoir présenté l'histoire d'une femme bien en avance sur son temps. Au tour de Margot de nous parler d'une icône de la pop culture. Elle a été nommée personnalité de l'année 2023 par le magazine Time, avec des salles de concert remplies en quelques minutes et des records d'écoute partout dans le monde. Fin du suspense, retour sur le phénomène Taylor Swift.
Taylor Swift, elle naît en 1989 en Pennsylvanie et plonge très tôt dans la country. Dès l'âge de ses 10 ans, elle se produit dans des bars et des festivals à Nashville, et en 2005, elle est repérée par le label Big Machine Records et sort son premier album en 2006 à 17 ans seulement. Ses titres à l'allure country cartonnent et son album se hisse au top des ventes d'albums aux États-Unis. Elle sort alors son deuxième album Fearless 2 ans plus tard, où elle mélange son univers country avec de la pop, un mélange qui va créer des singles qu'on chante toujours aujourd'hui comme Love Story.
Un mélange country et pop qui porte donc ses fruits.
Oui, car son album s'écoulera à plus de 3 millions d'exemplaires, des scores similaires pour chaque nouvel album qu'elle sort, jusqu'à devenir la première artiste à dépasser les 100 millions d'auditeurs par mois sur Spotify. L'application a même buggé le soir où elle a sorti son album Midnight à cause du trop gros nombre de connexions en même temps.
Margot, tu as essayé de comprendre pourquoi elle a un tel succès.
Eh bien, le point fort de Taylor Swift, c'est la proximité qu'elle a instaurée avec ses fans. Et elle n'a pas attendu l'ère des réseaux sociaux pour le faire. Depuis le début de sa carrière, elle enchaîne les événements qui la rapprochent de son fan club, apparitions surprises à des mariages, invitations privées pour découvrir son album en avant-première, ou encore après-midi cuisine avec ses fans. La star a bien compris comment créer une communauté fidèle. Et ce qui plaît surtout, selon Virginie Spies, maître de conférences à l'université d'Avignon, c'est que la star n'est pas dans un rapport de séduction aux hommes, mais plutôt de proximité avec les femmes, ce qui la différencie des autres célébrités de la pop féminine.
Un succès qui prend même des dimensions politiques.
Taylor Swift a lancé sa tournée Eras Tour il y a un an et elle est devenue la plus lucrative de tous les temps, avec déjà près $1 milliard de recettes. Une estimation prédit même que sa tournée va rapporter 5,7 milliards de dollars à l'économie américaine. Parce que partout où elle va, les hôtels ou les Airbnb sont pris d'assaut, c'est ce qu'on appelle l'effet Taylor Swift. Partout où elle se produit en concert, l'économie de la ville qui reçoit la pop star explose. À tel point que les hommes d'État appellent Taylor Swift à venir jouer dans leur pays, comme le président canadien Justin Trudeau, qui lui a demandé sur Twitter de venir se produire au Canada. Parce qu'il faut comprendre que Taylor Swift a une influence énorme, par exemple quand elle poste sur son compte Instagram, qui est suivi par 283 millions de personnes, de s'inscrire sur les listes électorales pour les élections présidentielles aux États-Unis, c'est plus de 35 000 personnes qui ont répondu à l'appel le jour même. Un record qui a d'ailleurs inspiré l'Union européenne, qui a demandé à la pop star d'inciter ses fans européens d'aller voter aux élections européennes en juin prochain.
Certains politiques la réclament donc, mais d'autres la craignent.
Et oui, parce qu'au début de sa carrière, Taylor Swift, elle s'exprimait pas trop sur ses opinions politiques, mais depuis quelques années maintenant, elle ne s'en cache plus. Elle est féministe, antiraciste, pro-LGBT, et forcément, ça ne plaît pas du tout aux républicains. En 2020, elle avait même appelé ses fans à voter pour Joe Biden contre Donald Trump, et les Trumpistes craignent que la pop star refasse la même chose pour les élections de cette année, à tel point qu'une théorie du complot défend qu'elle serait une agente du FBI et qu'elle aurait pour but de faire réélire Joe Biden en novembre prochain. Évidemment, ça reste une théorie du complot. En attendant, Taylor Swift est une artiste qui s'affirme en tant que femme et qui n'hésite pas à défendre ses idées, un vrai symbole d'empouvoirment féminin quoi, et ça, ça fait du bien.
Merci Margot, on sort de cet épisode avec plein de recommandations. On a aussi demandé à Anaïs, en régie, le livre qu'elle nous conseille, c'est Femmes puissantes de Léa Salamé, un recueil d'interviews avec des femmes au profil bien différent, scientifiques, politiques, sportives. Et c'est ainsi que s'achève ce podcast sous le signe du Girl Power. Merci d'avoir écouté Hors-Champ et merci Anaïs à la régie. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode Culture.